C'était acquis que l'histoire commençait avec l'apparition de l'écriture. Il était, parce que pour notre invité, l'histoire commence il y a bien plus longtemps, il y a 14 milliards d'années avec le Big Bang. Toutes les traces de l'apparition de la vie sur Terre jusqu'à aujourd'hui sont autant d'écrits, de codes que les sciences ont aidé à déchiffrer et qui écrivent avec autant de mains le grand récit de l'univers. Et ce grand récit de l'univers, c'est celui que va nous raconter Michel Serre dans l'heure qui vient, ici en studio sur les ondes de France Culture et sur Twitter en direct sur le compte @laméthodefc. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et c'est bien peu dire que nous sommes enchantés d'accueillir autour de la table de la méthode scientifique Michel Serre. Bonjour.
Bonjour.
Mille merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui suis redevable. Merci de m'avoir invité.
Vous publiez, Michel Serre, aux éditions du Pommier, Darwin, Bonaparte et Le Samaritain, une philosophie de l'histoire. Trois personnages pour trois âges de l'histoire. On y reviendra dans l'heure qui vient. Mais pour commencer, Michel Serre, je dois dire que j'ai décelé, vous allez me dire si je me trompe, une certaine malice dans ce livre. Une malice à s'atteler à une philosophie de l'histoire, vous qui avez plutôt arpenté, on le sait, le champ de l'histoire des sciences jusqu'à présent, et une philosophie de l'histoire qui non seulement commence par réfuter l'histoire humaine comme seul corpus, c'est un premier pas, et qui en plus réhabilite un grand récit en majuscule, un grand récit GR majuscule de l'univers à une époque où tous les discours historiographiques ne font que raconter précisément la fin des grands récits. Est-ce que c'est une double malice de votre part,
Michel? C'est pas une malice, c'est une sorte de critique directe, radicale, de frontale. Je crois que dès qu'on dit qu'aujourd'hui il n'y a plus de grands récits, ça fait partie, si vous voulez, de cette coupure terrible entre les philosophes qui ne savent pas de science et la science elle-même. C'est-à-dire, dès le moment qu'on dit qu'il n'y a plus de grands récits, on n'a pas beaucoup de chance. Parce que c'est justement maintenant que les sciences mises ensemble, depuis déjà, disons, une vingtaine d'années, 30 ans, peut-être 50 ans, se sont mis justement à raconter le grand récit. Alors, dire qu'il n'y a plus de grands récits, évidemment, tous ceux qui ont dit qu'il n'y avait plus de grands récits, étaient antifinalistes et ils avaient raison. C'est-à-dire le récit qui va vers quelque chose de façon unilinéaire et disons progressif. Mais c'est oublier complètement ce que c'est qu'un récit. Dès qu'on raconte une histoire, si je me mettais à raconter une histoire, si vous saviez la fin ou si vous saviez ce que je vais dire dans 5 minutes, puis dans 10 minutes, etc., ce ne serait plus un récit. Par conséquent, dès qu'un récit se développe de l'amont vers l'aval, c'est imprévisible. Et évidemment, dès le moment où on est en aval et qu'on se retourne et qu'on regarde en amont, on peut trouver mille et une raisons de ce développement. Et par conséquent, un récit bien mené, qu'il soit un roman, une histoire pour enfants, une pièce de théâtre ou n'importe quoi, un récit, il faut forcément qu'il soit imprévisible. Eh bien, c'est ça justement que disent les sciences. C'est-à-dire, ce pourquoi Darwin a ruiné le finalisme, c'est pour ça. C'est justement... Et d'ailleurs, la théorie du chaos en physique le dit de nouveau.
Et vous la convoquez à plusieurs reprises,
voilà,
la théorie du chaos.
Voilà, c'est ça. Et par conséquent, premièrement, c'est un récit au sens littéraire. Et deuxièmement, dire qu'il n'y a plus de grands récits, eh bien, c'est pas beaucoup de chance, puisque c'est justement maintenant que la totalité des sciences a mis en place ce récit extraordinaire qui s'enchaîne d'une certaine manière depuis le début de l'univers jusqu'à l'apparition de l'homme.
Alors ça, c'est pour le grand récit, pour l'une des deux parties de malice
donc
que je soulevais.
Donc c'est pas de la malice, c'est peut-être une critique frontale, vous voyez, ou plutôt presque comique, quoi.
Oui, mais c'est dans ce sens-là que j'entendais malice.
Oui, c'est ça,
sens-là.
Comique, oui, j'avais raison.
Dans le sens de malicieux. L'autre point de malice que je décelais, donc Michel Serre, c'est cette réfutation de l'histoire en tant qu'histoire. Hein. Je vais citer les tout premiers mots de votre livre. « Les historiens se vantent volontiers d'exercer, de pratiquer, de célébrer la mémoire, alors que leur discipline se définit plutôt comme une série d'oublis que voici. » Donc, d'une certaine manière, vous réfutez l'histoire humaine comme étant l'histoire des historiens, Michel Serre.
Oui, c'est-à-dire, l'histoire des historiens est excellente, je n'ai pas à la critiquer, et il est vrai, mais c'est une histoire des hommes. une histoire des individus, une histoire des collectivités, des nations, bref, des sociétés, et c'est très bien comme ça. Mais il se trouve que si on ne fait que l'histoire des hommes, on n'a que la mémoire de ce qui s'est passé dans l'humanité. D'ailleurs, cette mémoire se réduit simplement au moment où l'écriture a été inventée. Mmh. Et avant l'écriture, il y a quand même encore des hommes, etc., qu'on a un peu oublié. Mais passons là-dessus. Mais il est certain que...
C'est la préhistoire.
Oui, c'est ça, la préhistoire.
C'est la préhistoire, mais qui est une histoire tout de même.
Cette mémoire-là, elle suppose que c'est la mémoire intentionnelle des humains, intentionnelle ou moins des humains. C'est-à-dire qui est dans l'écriture, qui est dans la signification des textes écrits. Mais précisément, vous l'avez dit tout à l'heure, l'écriture est un code à déchiffrer. Mmh. Quand vous apprenez à des enfants à écrire à l'école primaire, vous lui apprenez la forme des lettres et à décoder dans son esprit le sens qui est caché dans ce code-là. Eh bien, justement, les sciences font ça depuis déjà très longtemps. Les premiers à avoir fait ça, c'est le 17e, 18e siècle, avec les premiers fossiles, etc. Alors, on trouve des codes. D'ailleurs, ce qui m'a mis sur la voie, c'est un très très beau livre sur les neurones de la lecture. Vous vous rappelez de ce livre-là, des neurones de la lecture, où l'auteur se demande à un moment, mais voyons, avant l'invention de l'écriture, que faisaient ces neurones-là ?
À quoi servaient-ils ?
Et il a une hypothèse à la fin de son livre qui m'a beaucoup intéressé. Il dit, nous étions des chasseurs-cueilleurs avant l'invention de l'écriture, et évidemment les chasseurs-cueilleurs apprenaient à leurs enfants, quand ils voulaient leur apprendre la chasse, les techniques de la chasse, à reconnaître sur les traces qu'avaient laissé les pas du gibier, si c'était un sanglier ou si c'était un lièvre, quel âge il avait, si c'était un mâle ou une femelle, quel était son pelage, etc. Donc ils arrivaient à déchiffrer ce code-là de façon excellente. Eh bien, ce geste-là, ce geste de décodage, est le geste général aujourd'hui d'absolument toutes les sciences, que ce soit la physique, la chimie, etc., l'histoire naturelle ou la biologie, vous voyez.
D'interprétation des signes.
Interprétation des traces.
Les neurones de la lecture que vous citez dans votre livre, c'est un ouvrage de Stanislas Dehaene, qui est publié chez Odile Jacob. Et alors, c'est intéressant parce que dans cette critique raisonnée de l'histoire des historiens, vous m'autorisez à l'appeler comme ça, Michel Serres, la première partie de votre livre fonctionne un peu à la manière d'un travelling arrière en cinéma.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'on part du nombril de l'homme, l'anthropocentrisme de l'histoire, et puis on recule dans l'espace et dans le temps vers l'origine de l'univers pour montrer que l'histoire s'inscrit.
Ce pourquoi je recule, justement, c'est pour prendre le sens du récit dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je ne suis pas parti du Big Bang vers l'apparition de l'homme, je suis parti de l'apparition de l'homme, et à ce moment, évidemment, il y a des sciences humaines qui font le relais. C'est-à-dire, avant l'écriture, il y avait des peuples qui n'avaient pas l'écriture, donc il y a à la fois de la préhistoire, de l'ethnologie, etc. Et avant les hommes qui n'avaient pas d'écriture, il y avait des hommes dont on ne sait plus rien, etc. Donc, la paléoanthropologie, si vous voulez, puis on monte ensuite à l'histoire naturelle, c'est-à-dire les premiers anthropoïdes, etc. Et puis on remonte la totalité de l'évolution,
la géologie,
et ainsi de suite. Voilà. Et par conséquent, les sciences vont s'aligner dans ce mouvement d'aval vers l'amont, qui cherche justement le grand récit, mais qui ne va pas de l'amont vers l'aval, parce que justement c'est imprévisible et c'est contingent. Voilà. Mmh. C'est nécessaire dans un sens et contingent dans l'autre. Voilà.
Et ce qui est intéressant, c'est que donc pour remonter le fil de ce grand récit, vous convoquez tout le champ scientifique, comme autant de lectures, de traces dans l'histoire scientifique récente, puisque les dernières en astrophysique, c'est les ondes gravitationnelles qui nous permettent de lire le livre, décrivez-le-nous, Michel Serres, vous ferez mieux que moi.
Il y a plusieurs types. Par exemple, lorsque on va au Groenland et qu'on carotte l'Inland 6 sur des milliers de mètres, n'est-ce pas ? On s'aperçoit qu'on peut lire, au fur et à mesure qu'on descend dans le carottage, l'histoire du climat, puisqu'il y a des traces dans les couches successives de ce qu'était l'atmosphère dans les temps en question. Vous voyez, donc là, il y a aussi une lecture de traces. Par exemple, autre exemple, lorsque dans une éruption volcanique, il y a les roches en fusion qui se mettent à cristalliser, eh bien, on s'est aperçu que dans le phénomène de cristallisation, le cristal lui-même garde le souvenir, vraiment garde trace du souvenir du champ magnétique de l'époque. Donc, on peut trouver dans les cristaux en question des traces du champ magnétique de l'époque, etc. Vous voyez. Donc, des traces de ce genre, il y en a. J'ai envie de vous raconter une histoire.
Ah, bah, oui. Écoutez, nous sommes toutes oui.
Quand j'ai été élu à l'Académie, et il y avait à l'Académie, comme c'est traditionnel, deux ou trois grands scientifiques. Vous voyez, bon, c'est la tradition. Et un des scientifiques m'a demandé à un moment de faire une conférence à l'Académie des sciences. Évidemment, c'était très impressionnant d'être des gens qui étaient des puits de science et chacun spécialisé dans son domaine. Et d'autre part, il y avait même des prix Nobel dans la salle, donc je n'avais pas un poil de sec, évidemment. Et alors, j'ai commencé par leur dire que je les remerciais beaucoup de m'avoir appris tant de choses, vous, le naturaliste, vous, le biochimiste, vous, le géophysicien, vous m'avez appris ceci, etc. Puis je me suis arrêté et je me suis dit, mais au fond, vous ne m'avez appris finalement qu'une seule chose. Qu'une seule chose, c'est que depuis des dizaines d'années, vous avez découvert des techniques pour dater vos objets. C'est-à-dire, vous savez dater vos objets. Et ça, c'est un phénomène percurant dans la totalité de l'encyclopédie. Et donc, du coup, dès qu'ils avaient daté leurs objets, on pouvait raconter une histoire. Et c'est ce que j'ai appelé le grand récit.
C'est l'importance de la datation. Je vais citer un extrait qui l'évoque d'ailleurs, pour faire le lien entre ce que nous disions juste avant sur l'écriture et cette question de la datation qui est centrale dans cette première partie de votre livre, Michel Serres. Qu'est-ce que l'écriture à nouveau, sinon un ensemble de traces qui codent un sens? Or, les vivants et les choses laissent ou émettent tout justement des marques d'où nous induisons parfois quelques détails et ensembles inouïs, ossements fossiles, cristallisation des roches volcaniques, poussière découverte par le carottage des glaces, radioactivité du carbone 14, lumière des galaxies et des étoiles, et plus récemment, ondes gravitationnelles dont nous apprenons peu à peu à déchiffrer le champ, le sens, le monde des choses, celui des vivants et l'univers des autres mondes se présentent comme des livres ouverts dont les sciences entreprennent de déchiffrer le secret enfoui dans un type particulier de codage.
C'est ça. Donc, d'ailleurs, c'est une vieille métaphore, très très vieille, très ancienne, que le monde serait un livre ouvert qu'il suffirait de lire, vous vous rappelez? Et ça, c'est une métaphore de plusieurs philosophes. Mais là-dessus, Galilée a inventé quelque chose d'encore plus précis. Il a dit « le monde est écrit, d'accord ». Mais il est écrit en langage mathématique, vous vous rappelez? Donc, déjà, l'intuition de cette universalité de la trace ou du code à déchiffrer était déjà un peu intuitionnée dans les philosophes d'autrefois et même chez Galilée. Alors évidemment, la trace n'est pas immédiatement mathématique. Il faut inventer des mathématiques pour comprendre la trace, pour l'interpréter, pour la traduire, et ainsi de suite. Mais enfin, en gros, si vous voulez, c'est vrai. En gros, le monde est écrit en langage mathématique, il n'y a pas de doute là-dessus.
Et il est intéressant à ce titre, c'est peut-être anecdotique, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, Michel Serres. Ici même, autour de cette table, mardi dernier, on parlait des échantillons qu'on pouvait ramener de l'espace, des missions lunaires d'Apollo, ou d'Apollo, comètes, ou des astéroïdes. Et ces échantillons, on analyse une toute petite partie on garde le reste pour des analyses futures, c'est-à-dire pour en attendant qu'on ait appris le langage qui nous permettra de lire de façon plus précise ces traces.
Exactement. Il est certain que le chasseur, revenons au chasseur de notre ami de Haine, il est bien clair que quand on sait lire la trace, etc., un chasseur plus raffiné, quelques années après, pourra déchiffrer mieux que ça, à la fois, par exemple, plutôt son sexe, ou plutôt son poids, ou plutôt son pelage, etc., alors que les précédents ne voyaient que le fait que c'est un sanglier ou un lièvre, vous voyez ce que je veux dire. Et par conséquent, c'est vrai, on a d'ailleurs fait ça même avec des échantillons de maladies qu'on a laissés en frigidaire pour, à la suite de la science, les interpréter mieux encore que nous pouvons le faire aujourd'hui. Par conséquent, ça laisse ouvert la possibilité d'une lecture postérieure, d'une lecture meilleure.
D'un apprentissage ultérieur.
Voilà, un apprentissage ultérieur.
Dans ce grand, dans ce grand récit, Michel Serres, les plantes ont leur importance dans le vivant, mais dans le vivant non humain, dans l'apparition et dans l'évolution des espèces. Eh bien, nous en avons profité pour envoyer notre chère Céline Lozen. Bonjour Céline.
Bonjour Nicolas, bonjour Michel Serres.
Bonjour.
Vous êtes partie reprendre contact avec la nature.
Oui, et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien.
Vous avez une mine superbe.
Oui, c'est vrai, j'ai pris le soleil aussi, j'en ai profité, je suis allée dans le sud de la France.
Oui.
Et Michel Serres, dans votre ouvrage, c'est vrai que vous faites l'éloge des plantes et du monde végétal.
Oui.
Vous citez même Francis Allais, qui est un botaniste, qui lui parle d'intelligence des plantes. Ça a piqué un peu ma curiosité, alors je suis allée le retrouver dans son jardin à Montpellier.
Et vous avez vu des plantes préhistoriques.
Oui, voilà, c'est ça exactement, j'ai vu des plantes préhistoriques. Dans son jardin, on peut y croiser des espèces qui ont traversé les âges reculés de l'histoire. Il cultive des arbres parmi les plus anciens que la Terre ait connus, et qui ont même côtoyé les dinosaures. Il avait même un arbre mutant qu'il fait grandir avec le plus grand soin. Alors j'ai pu aussi m'exercer à reconnaître des odeurs d'arbres exotiques,
formidable,
mais surtout,
formidable.
Surtout, il m'a sensibilisé.
Je suis jaloux de vous.
C'est
là.
Bah, sa porte est grande ouverte.
Oui,
c'est...
Et vous allez voir, on va voyager par les oreilles. Écoutez, Michel Serres.
Les plantes étaient là avant nous. Elles nous racontent une histoire sur nos origines.
C'est clair que les plantes étaient là avant nous. Et puis, je trouve que l'histoire humaine, elle est mal partie. Il faut qu'on connaisse les plantes. Notre avenir, c'est les plantes. Le meilleur moyen de lutter contre les changements climatiques et les réchauffements et tout ça, c'est les plantes. Donc, c'est pas le moment de les perdre de vue. À peine arrivé ici, dans cette maison, j'ai planté cet arbre. Il avait 1,50 m.
Et là, il fait bien 8 mètres de hauteur.
Oui, il fait 1 mètre par an, à peu près.
Ah oui, quand même.
Oh, c'est très peu, il y a des arbres bien plus rapides que ça. Enfin, lui, il pousse bien, c'est un ginkgo, hein. C'est un arbre symbolique. Les dinosaures ont vu ça. Les dinosaures se sont nourris des graines de ces arbres-là. Si vous vous intéressez aux plantes médicinales, vous allez trouver ça intéressant. Mais je vous laisse faire, il faut casser la feuille et respirer.
On voit déjà des petites particules blanches qui s'en émanent.
Oui, effectivement, il y a de la cire dessus. Voyons si vous reconnaissez cette odeur-là.
J'ai pas un nez bien fin.
Parce que vous l'entraînez pas assez.
Peut-être.
Ça vous dit quelque chose ?
C'est une odeur...
Connue.
C'est une odeur assez connue, oui, mais je...
C'est le camphre.
Ah.
C'est le camphre. Cet arbre, c'est un camphrier. C'est un arbre du Japon. Il pousse très bien ici. Il pousse très très vite. Je vois qu'il y a des fruits. Voilà, ça c'est un arbre médicinal. J'en ai d'autres à vous montrer, hein. Faites la même chose avec ça. Vous prenez une feuille, vous la cassez.
Je la déchire.
C'est fort,
puissant.
Hein. C'est puissant, hein.
Ah, ça pourrait déboucher
effectivement.
Une personne enrhumée, là.
Oui, tout à fait. Oui. C'est le laurier de Californie. C'est du laurier. C'est proche de notre laurier. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus puissant. Cette plante-là pousse dans le sous-bois des forêts de Sequoia sempervirens, les plus grands arbres du monde.
D'accord.
100 mètres de haut, mais au pied, vous avez ça.
Et ça peut pousser à Montpellier.
Ben, vous voyez, ça pousse très bien. On a un climat qui n'est pas très loin de la Californie, ici. Et vous devriez prendre une feuille et la froisser et la sentir. Vous savez, dans la Méditerranée, toutes les plantes sont odorantes, beaucoup plus que dans des régions humides comme le bassin parisien. Vous devriez essayer l'odeur de ça.
Ça se met dans des plats.
Oui.
Ne dites rien.
Et en fleurs. C'est ce que les Brésiliens appellent le poivre rose. Ça sent un peu le pastis ou le fenouil. Vous avez sûrement un des arbres les plus étonnants du jardin. C'est un mutant de sophora. Alors, il faut que je vous explique. La base n'est pas mutante, c'est un sophora normal. Vous voyez une ligne, là ? C'est là qu'on a greffé le bourgeon mutant. Et donc, tout ce qui est au-dessus de cette ligne, c'est un sophora mutant.
Je crois que j'ai jamais vu un arbre aussi étrange de ma vie.
Ça m'étonne pas.
J'ai un tronc d'arbre, pas tout à fait normal, classique, régulier, et à environ 1,52 m, là où il y a dû y avoir une greffe, oui. Se prolonge un tronc ou plusieurs troncs qui s'enchevêtrent, qui s'entremêlent comme une tresse, et qui se poursuivent sur bien 15 mètres.
Oui, effectivement, et il va grandir encore.
Et il y a également d'autres branches qui forment des vrilles et qui retombent. Et sur ces branches qui retombent, on a des tiges qui tombent à la verticale.
Elles poussent vers le bas. C'est assez étonnant de voir un arbre dont les branches pousse vers le bas.
C'est un peu un Frankenstein végétal, là.
Alors, c'est un mutant. C'est-à-dire qu'une plante comme ça, dans la nature, n'aurait aucune chance. D'ailleurs, elle n'a pratiquement pas de sexualité, elle fleurit très peu. Ça n'est maintenu en vie que parce qu'on s'en occupe. C'est dans un jardin, donc c'est dans des conditions optimales pour lui.
Alors ici, on dirait un palmier.
On dirait un palmier, en effet, mais c'est pas du tout un palmier. C'est beaucoup plus proche des fougères. Et on a vu tout à l'heure le ginkgo, dont l'espèce était contemporaine des dinosaures. Ça, c'est beaucoup plus ancien que les dinosaures. Ça s'appelle cycas. Ça vient du Japon. Et vous avez le pied femelle ici, le pied mâle est de l'autre côté de l'allée. Et voilà, c'est une des plantes les plus anciennes qu'on ait sur la Terre actuellement.
Donc j'ai sous les yeux un véritable trésor, un témoin du passé.
Oui, oui, c'est vrai, vous avez un fossile vivant. C'est tout à fait ça. On les connaît à l'état fossile d'ailleurs.
En fait, on dirait un palmier, sauf que les palmes seraient des fougères. Et au centre, une grosse boule jaune.
C'est très joli. Hein. Sur la Côte d'Azur, il y en a plein. Je vous montre le pied mâle qui est juste là.
Alors le mâle est moins impressionnant, évidemment.
Le mâle est moins impressionnant. Et puis la fleur mâle, elle est passée depuis longtemps. Ça a dû fleurir au petit printemps, donc maintenant c'est sec. Mais c'est bien d'avoir les deux sexes, parce que comme ça, on est sûr d'avoir des graines fécondées. On va en mettre partout.
Voilà le jardin magique de Francis Allais avec Céline Lozen. Votre réaction à cette
reportage ? Francis Allais, j'ai beaucoup d'admiration pour lui parce que quand il a écrit son éloge des plantes, je lui ai fait avoir même le prix de la philosophie à l'Académie tellement que j'étais impressionné. Et pourquoi ? Parce qu'il dit quelque chose que je savais déjà, mais mieux que moi. C'est-à-dire, il est vrai que les gens de la faune, comme nous, les animaux courent. Les animaux courent. Et ils courent pourquoi ? Ils courent pour attraper leur proie, pour échapper à leurs prédateurs et pour trouver un partenaire sexuel, en gros. Vous voyez, bon. Et oui, mais les plantes, elles ne courent pas. Alors comment font-elles pour les proies, pour les prédateurs et pour les partenaires sexuels ? Alors, c'est très simple, elles ont inventé la chimie. C'est-à-dire, elles ont inventé les parfums que vous avez senti, cher ami, et pour attirer, justement, et puis des poisons pour repousser, c'est-à-dire pour repousser le prédateur. Donc l'invention de la chimie, c'est les plantes, et Francis Allais le dit très bien, mais il dit beaucoup mieux. Il dit, ce qu'il y a d'extraordinaire dans les plantes, c'est qu'elles n'ont pas de cerveau ni de système nerveux. Bon, ça c'est quand même extraordinaire. Mais il se trouve que avec les poisons et les parfums, elles attirent avec le parfum des abeilles, par exemple, pour être fécondées elles-mêmes, d'où le partenaire sexuel, et puis des poisons pour repousser, finalement, un prédateur éventuel. Et ce prédateur et ses partenaires sont toutes des espèces qui ont des cerveaux et un système nerveux. Et par conséquent, un être vivant sans cerveau se sert avec beaucoup d'astuces d'êtres vivants qui ont des cerveaux et un système nerveux. Et par conséquent, qu'en est-il de l'intelligence, cher ami ? Vous voyez ? Qu'en est-il de l'intelligence ? C'est-à-dire, celui qui justement n'a pas de cerveau se sert de ceux qui en ont un avec beaucoup d'astuces et les autres, ils vont complètement aveuglément, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ça m'a beaucoup plu, cette espèce de retournement de la situation, de voir qu'on se vante beaucoup de notre cerveau, de notre intelligence. Oui, mais les plantes n'en ont pas, elles font encore mieux que nous. Oui. Ça, c'est très bien.
Ce qui est intéressant et ce qui est amusant...
Vous voyez qu'il date beaucoup, lui, dans la visite que mademoiselle vous avez fait avec lui, il a date sans arrêt daté. Il dit, cette plante, elle date de là, cette plante... Donc, il raconte le récit, déjà.
Vous avez d'ailleurs réagi tout à l'heure, Michel Serres, à l'écoute de ce reportage, à l'expression fossile vivant, c'est-à-dire
voilà,
à la trace,
oui, c'est ça.
À la trace dans le temps encore, en tant que marqueur.
Exactement, c'est-à-dire on peut en effet dater, exactement, dire la date, mais il vit encore, vous voyez. Et par conséquent, là, il y a un sens de l'histoire, voilà. Et c'est ça que j'ai voulu dire, c'est-à-dire que les sciences sont rentrées dans l'histoire, et l'histoire est rentrée dans la science. Et ça, c'est quand même un événement très intéressant de célébrer, enfin, les épousailles ou les fiançailles de l'histoire et des sciences. Et ce n'est pas de l'histoire des sciences,
non,
pas du tout.
C'est
des sciences comme histoire.
Tout à fait. Et d'ailleurs, à l'encyclopédie historique, dans votre livre, Michel Serres, vous substituez donc ce que vous appelez une chronopédie.
Exactement. C'est-à-dire qu'autrefois, lorsqu'on voulait faire un tableau de la totalité des sciences, à la mode de... je sais pas moi, de l'Encyclopédie ou même d'Auguste Comte, on faisait une sorte de schéma spatial sur une feuille de papier, sur un écran. On disait, là, il y a la mathématique, puis il y a ceci, etc. On faisait une sorte de distribution abstraite, mais spatiale. Tandis que maintenant, on voit très bien comment les sciences s'enchaînent peu à peu, selon les datations dont nous venons de parler. Et par conséquent, au lieu d'être une encyclopédie, c'est une chronopédie, c'est-à-dire dans le temps, ça se développe dans le temps.
C'est-à-dire qu'il y a une sorte de continuum dans la façon dont les sciences peuvent nous permettre d'appréhender cette histoire qui remonte jusqu'aux origines de l'univers.
Et c'est une histoire de l'univers, c'est une histoire des vivants, des plantes et de la faune et de la flore, ou des monocellulaires, mais c'est une histoire au sens... Alors, évidemment, c'est là où ce que vous appelez mon astuce devient quelque chose de très sérieux. C'est-à-dire que il en a parlé tout à l'heure, il a parlé du réchauffement climatique. Il a parlé des problèmes vraiment très sérieux qui se posent aujourd'hui aux sociétés humaines et à leur conduite et à leur production. Et oui, mais si on n'apprend jamais en histoire que ce qui est propre aux humains, c'est-à-dire aux sociétés et aux individus, si on ne fait pas rentrer dans l'histoire humaine l'histoire de nos cousins, les animaux, de nos proches cousins, les plantes, etc., et de l'univers, alors le fait de ne pas l'apprendre fait qu'effectivement, on n'y pense plus.
Oui. Vous dites d'ailleurs à ce propos, Michel Serre, que le changement de paradigme, c'est que nous avons pendant très longtemps eu le sentiment d'être des êtres finis, des êtres humains finis, dans un monde qui, lui, était infini. Or, nous nous rendons compte, à l'inverse, aujourd'hui, que ce monde dans lequel nous vivons est non seulement fini, mais est fragile, alors que nous pouvons nous projeter dans des termes qui sont des termes infinis.
Nous sommes toujours infinis, ou du moins indéfinis, c'est-à-dire à la fois dans notre savoir et dans nos passions, ou dans nos désirs, etc. Et c'est vrai que, jusqu'à maintenant, on pensait que le monde était infini, on pouvait y puiser à pleine main et sans arrière-pensée. Aujourd'hui, on voit bien qu'il est fini et qu'il est même fragile, comme vous le dites. Oui.
C'est vous qui le dites, c'est pas moi.
Oui, non.
Moi, je ne fais qu'à vous reprendre. Ce qui est intéressant dans ce rapport qu'entretiennent la science et l'histoire, c'est que on l'a dit tout à l'heure, la science, ce sont donc ces langages qui nous permettent de décrypter les traces, les signes qui écrivent ce grand récit qui remonte juste au Big Bang. Mais ça n'est pas qu'une sémantique scientifique.
Bien sûr.
C'est aussi dans cette interpénétration que vous décrivez quand vous dites les sciences entre dans l'histoire et par pénétration réciproque l'histoire entre dans les sciences, c'est que les savants deviennent en fait les historiens de votre grand récit.
C'est ça. C'est-à-dire que lorsque j'ai dit à mes collègues de l'Académie des sciences, vous m'avez appris une seule chose, c'est de dater vos objets, en effet, je les ai traités d'historiens. D'ailleurs, d'une certaine manière, les savants sont à la fois des gens qui expliquent les phénomènes, qui trouvent les lois des phénomènes, mais dès le moment où ils datent, ils deviennent les historiens de leurs propres objets, vous voyez. Et là, c'est très intéressant de voir une sorte de basculement de leur discipline.
Ouais. Vous voyez la malice à laquelle je faisais référence au tout début. Il y a une petite malice, même dans votre œil, à cet instant présent, Michel Serre. C'est assez iconoclaste de transformer les scientifiques en historiens, non?
Non, pas du tout. C'est un peu iconoclaste. Je cherche pas à être iconoclaste, vous savez. Mais simplement de dire qu'à un certain moment, il y a eu une transformation complète de leurs activités dès le moment où ils ont découvert, en effet, d'ailleurs, la visite de Céline à Francis Allais est un témoignage extraordinaire, extraordinaire. C'est-à-dire, à mesure qu'elle avançait et qu'elle disait tel arbre, il vous répondait, n'est-ce pas, Céline, les dinosaures l'ont vu, et celui-là, c'est avant les dinosaures, etc. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il était botaniste, certes, il était biologiste encore mieux, il était même paléobiologiste encore mieux, mais il devenait historien. Vous voyez, puisqu'il vous racontait en même temps une histoire, il remontait, vous voyez, en disant tel, et puis celui-là, il est tellement fragile que, etc. Et donc, il mettait en place un paysage, mais un paysage mouvant, et qu'on pouvait développer dans une chronologie. Et voilà. Et votre visite est devenue une double visite, n'est-ce pas, Céline?
Oui, c'est ça, entre histoire et science.
Exactement, c'est-à-dire.
Une démonstration. Nous avons fait la démonstration des thèses que vous avancez, Michel Serres. Non, mais c'est intéressant, c'est que ce que vous nous dites tout de même, c'est que ce sont les sciences, finalement, qui nous racontent la plupart, sinon l'intégralité de ce grand récit, l'intégralité de cette histoire de tout le vivant et de tout, enfin, ce que vous appelez les vifs et non-vifs.
Je ne crois pas qu'on puisse dire l'intégralité tout de suite, parce qu'il faut quand même laisser le temps au temps, c'est-à-dire que la science va évoluer. Elle va dire certainement 1000 choses supplémentaires ou d'autres choses, ou même nier ce qui a été dit. Donc ce grand récit est sujet à transformation, forcément. Et c'est ça, justement, l'histoire. À mesure qu'on avance dans l'histoire, on sait mieux lire la Révolution française, ou on sait mieux lire le règne de Louis XIV, etc. Donc on sait de mieux en mieux lire les événements de l'univers.
Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce cheminement...
On discutera sur le Big Bang, on discutera sur l'arrivée des bonnes cellulaires, etc., en lisant mieux que nous lisons aujourd'hui. Donc c'est pas fini, on peut pas dire l'intégralité, vous voyez, on peut dire c'est ouvert.
Vous le spécifiez bien, ce récit n'est pas achevé, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce cheminement, ça vous amène, Michel Serres, à l'idée, finalement, alors je m'avance peut-être un peu, mais c'est vous qui allez me contredire, d'une science universelle. On est presque à la théorie du tout avec ce que vous appelez l'iconographie. Expliquez-nous ce que c'est.
Oui, voilà, au XVIIe siècle, il y avait une théorie très intéressante. Je rentre dans le studio et du point de vue de la porte du studio, je vous vois. Et je vous vois de profil, ainsi que Céline, je la vois de dos. Puis je me déplace, et puis je vois Céline de face et vous de profil, etc. Donc, à chaque moment de mon déplacement dans le studio, je vais vous voir tous les deux différemment. Et ça, on appelle ça la scénographie. C'est-à-dire les profils successifs que je peux avoir de la personne de Céline ou de votre personne à vous. Bon. Et alors, à un certain moment, un philosophe qui s'appelle Leibniz a dit « Ah oui, mais ça, il est vrai que quand on est un homme, on a un point de vue. On est là et on ne peut voir de Céline que la face ou le profil. Mais est-ce que je pourrais voir la totalité des profils de Céline, la totalité de vos profils à vous ?» Et alors, c'est difficile. Et alors, l'Église appelle le géométral, vous voyez, c'est-à-dire l'ensemble des profils. Mais qui peut le voir ? Oh ben Dieu ! Dieu peut le voir puisqu'il est partout. Il est ubiquiste, il est dans tous les points du monde. Donc il peut le voir. Et il appelle ça quelquefois ou le géométral ou l'ichnographie. Voilà, ça veut dire la lecture de toutes les traces possibles. Ignos, c'est la trace de pas. Voilà.
Et on n'est pas loin de... Ça nous conduit doucement sur les voies du déterminisme de Laplace, après Michel Serres.
Ah ben voilà, et c'est ça qu'il faut éviter à tout prix, bien entendu. C'est-à-dire que le déterminisme de Laplace, c'est la manière dont on voyait le monde, disons, à la fin du 18e, juste dans le pont entre le 18e et le 19e siècle. C'est d'ailleurs très intéressant de voir ça au point de vue de l'histoire des sciences. Vous le savez, entre le 18e et le 19e, Laplace fait une théorie, si vous voulez, une mécanique céleste. Et là, il démontre que le système solaire est stable. Et donc, on peut y aller pour le déterminisme, il n'y a pas de doute. Bon. Et lorsque le 18e se termine, et que le 19e commence, non, lorsque le 19e se termine et que le 20e commence, juste à ces dates-là, Poincaré recommence. Il fait une nouvelle mécanique céleste et il démontre que le système solaire n'est pas stable. Et c'est là, tout d'un coup, que tout change et que le déterminisme commence à devenir du contingent. Et déjà là, dès le moment où le déterminisme devient du contingent, on sent que la science rentre dans l'histoire. Vous voyez ? Voilà.
History in the making. méthode scientifique, Nicolas Martin.
16h36 sur France Culture, Believe in Humanity, Croire en l'humanité de Carole King. C'était un morceau de circonstance choisi par notre réalisatrice Elisabeth Miro pour un indécrottable optimiste comme Michel Serres qui est notre invité tout au long de cette heure. Michel Serres qui publie Darwin, Bonaparte et le Samaritain aux éditions du Pommier. Et Michel Serres, la méthode scientifique, figurez-vous, ne s'appelle pas la méthode scientifique tout à fait par hasard.
Bien sûr.
Et je suis curieux, très curieux, de connaître votre regard, précisément votre façon d'appréhender ce qu'est ou ce que devrait être la méthode scientifique. Est-ce qu'il y a une méthode scientifique,
non,
Michel Serres ?
Non, je ne crois pas qu'on puisse dire la méthode scientifique en général, parce que bien entendu, entre un mathématicien, et même parmi les mathématiques, entre un mathématicien, un statisticien et un informaticien, il y a déjà trois sciences décalées, vous voyez. Ensuite, vous avez des physiciens, puis des chimistes, et puis les biologistes, et puis les biologistes de l'humain, et les biologistes... On a rencontré un botaniste tout à l'heure, vous voyez, et puis ça va vers l'astronome, etc. Vous pensez bien que l'astronome n'a pas tout à fait les mêmes méthodes que le topologue, ou que le topologue n'a pas tout à fait les mêmes méthodes que le spécialiste des métaux, vous voyez, ainsi de suite. Par conséquent, en gros, si vous voulez, il y aurait quelque chose qui s'approcherait des mathématiques, par exemple, et qui serait la démonstration en rigueur, vous voyez. Et ça, c'est une méthode vraiment très particulière et très déterminée dans les mathématiques. Et puis, il y a toutes sortes de méthodes en éventail concernant des mesures. Les mesures seraient tout le temps approchées, vous voyez. Une mesure est très difficile, et très difficilement rigoureuse. Elle est précise. Précise, ça veut dire approchée, vous voyez. Et donc, je dirais assez volontiers qu'il y a plusieurs sortes de méthodes et chacune serait, disons, attaché à une ou deux disciplines en même temps. Vous voyez, l'astronome est lié à la perception, au traitement du signal. Vous voyez, et alors que le mathématicien n'est pas lié à la perception ni au traitement du signal. Vous voyez, ouais. Donc, je crois qu'il y a plusieurs méthodes, mais il y a quand même une méthode scientifique globale.
Alors, allons-y.
Et alors, l'approche scientifique, c'est pas l'approche que pourrait avoir un historien, ou que pourrait avoir un philosophe, ou pourrait avoir un historien des religions, par exemple, etc. Et la science, alors là, quel serait vraiment le dénominateur commun à toutes les méthodes scientifiques ? Ça, c'est très difficile à dire.
Telle était ma question initiale.
Oui, c'est assez difficile à dire. Peut-être avant la fin de l'heure, j'aurai une idée.
On va laisser tourner ça en tâche de fond, comme on dit.
Oui, c'est ça,
et je vous propose, tenez, de faire un petit bond dans le temps. Alors, pas aussi loin que les origines de l'univers, bien sûr. Mais remontons en 2004, grâce à notre partenaire, le CNRS Images, dans l'archive du jour. Écoutez, Michel Serres, l'anthropologue Maurice Godelier, il tente de définir les relations qu'il entretient avec les scientifiques.
La science n'a pas joué un rôle historique avant le XVIIIe siècle. Est-ce que la science avait pesé dans l'histoire de l'humanité ? C'est faux. Qu'est-ce qui pesait dans l'histoire de l'humanité ? C'était des techniques maîtrisées par les gens pour produire leur vie. La science a des effets pratiques par les sciences appliquées, par la technologie. Mais autrefois, c'est les techniques qui étaient utiles. Techniques agricoles, techniques de métallurgie. Il n'y avait pas de science abstraite derrière.
Absolument.
Et donc ça n'avait pas un effet sur la société. Il y avait des théologiens, des intellectuels, tout ce que tu veux. Ce n'est pas des scientifiques au sens moderne. Les scientifiques au sens moderne, d'abord, personne ne comprend ce qu'ils font. Hein. Moi, je ne sais pas ce que c'est que la physique nucléaire. D'abord, quand je conduis ma voiture, je ne sais pas ce que c'est que le moteur à explosion. Ça ne m'intéresse pas tellement de le savoir. Et c'est fabuleux que les mecs, ils peuvent faire le boulot. Tranquille, après ils m'appliquent les choses et moi j'utilise les boutons. Bon.
Alors, ça vous a fait, évidemment,
c'est très amusant.
On voulait vous soumettre cette archive.
C'est magnifiquement daté. C'est-à-dire, oui. C'est l'époque où, en effet, marxiste, si vous voulez, où vraiment, il fallait que ça soit le dur qui compte, que ça soit la technique, etc.
Mais ça soulève une vraie question. Est-ce que c'est la science ou est-ce que c'est la technique qui a influencé
la science n'ait pas eu d'impact sur la société, il y a de quoi éclater de rire. Parce que vous pensez bien que dès le moment où on a inventé la géométrie en Grèce, la culture entière de la Grèce a basculé. Bien entendu. Elle a basculé du point de vue de la pédagogie, elle a basculé du point de vue même du droit, etc. Et même, je crois, de la distribution des terres, forcément, vous voyez. Et dès le moment où on a inventé la physique à la Renaissance, ou un peu avant la Renaissance, toute l'Europe a basculé. D'ailleurs, elle a basculé de telle façon qu'elle a pris une importance énorme dans le globe lui-même, vous voyez. Donc, c'est ça que je distingue dans mon livre, justement, entre ce qu'on appelle aujourd'hui le dur et le doux. Mmh. Vous voyez ? Alors, évidemment, les historiens aiment beaucoup le dur. C'est-à-dire, ils aiment beaucoup la révolution industrielle, ils aiment beaucoup, parce que c'est technique, ils aiment beaucoup la pierre taillée, parce que c'est des techniques.
Les âges géologiques.
Oui, mais vous comprenez, dès le moment où on évoque des révolutions comme l'invention de l'écriture, alors ça, c'est une invention telle qu'elle a bouleversé complètement la société. Alors que les inventions techniques bouleversent des petits cas de la société, contrairement à ce que dit Godelier, vous voyez. Tandis que l'invention de l'écriture a bouleversé à la fois la pédagogie, comme je l'ai dit, le droit d'Amourabi a été écrit tout d'un coup, ensuite la politique, il y a eu des scribes, etc. Et tout d'un coup, les sciences et les mathématiques sont arrivées, et on a inventé l'écriture sainte, c'est-à-dire la religion, vous voyez. Et par conséquent, là, les révolutions douces sont beaucoup plus importantes et décisives pour l'évolution de la société que les évolutions techniques.
Alors, qu'est-ce que vous appelez les révolutions douces, Michel Serres?
Alors, il y en a au moins trois, que je sache, et je le dis dans le livre, évidemment. Il y a la révolution de l'invention de l'écriture. Alors, elle est si importante qu'elle détermine le début de l'histoire, tout simplement, puisque c'est la décision. Ensuite, l'invention de l'imprimerie, qui a changé complètement notre rapport au savoir, donc notre rapport global à la culture, donc à l'enseignement, donc à la religion, et ainsi de suite. Vous voyez, la société en était complètement... Et aujourd'hui, les nouvelles technologies, d'ailleurs, nous voyons bien aujourd'hui que toutes les institutions que nous connaissons sont en crise. Et elles sont en crise pourquoi ? Parce qu'il y a une évolution complète qui est faite à partir de ce doux. Alors, j'appelle le doux, vous voyez, par exemple, qu'est-ce que c'est ? Avant l'écriture, nous ne correspondions que par l'oral. Alors, le support, c'était le corps, et l'oral, c'était les ondes sonores que je produis et que vous entendez par votre système auditif. Donc, le couple support-message, c'est le corps et ces ondes-là. Mais au moment où on invente l'écriture, le support-message change complètement. Le support devient le papier. Ou le parchemin, ou etc. Et le message devient l'écriture. Vous voyez, à l'imprimeur, ça change de nouveau, et maintenant, ça change de nouveau. C'est donc des révolutions sur le couple support-message. Et ces révolutions sont 10 fois plus importantes que les révolutions techniques dures dont parle Godelier. Bien entendu, je crois que la révolution industrielle a été très importante, mais la vraie révolution, c'est la révolution de la thermodynamique. Bien entendu, c'est la science qui détermine ça. Parce que ça, elle donne des productions infiniment diverses à la technique elle-même. Voyez. Donc je crois que Godelier me ferait rire plutôt maintenant. Voilà.
Et j'ai une question à vous poser pour prendre un peu de champ par rapport à tout ça, et justement par rapport à l'évolution de cette révolution douce des nouvelles technologies, et puis plus généralement par rapport à l'extrême spécialisation.
Oui, c'est pour ça que j'appelle le temps actuel l'âge doux. Mmh. Vous voyez, ça, tout le monde...
On revient à votre optimisme, Michel Serres. Ouais. Quel est, selon vous, aujourd'hui, est-ce que vous diriez qu'avec l'extrême spécialisation qu'ont connue les sciences depuis la deuxième moitié du XXe siècle, disons, je pense à la physique des particules, l'astrophysique, la physique quantifique, etc. Bref, à tous ces champs scientifiques très très spécialisés qui élaborent des conceptions paradigmatiques de l'univers très pointues, très différentielles, le travail de l'historien des sciences a-t-il changé, ou de l'épistémologue a-t-il changé ? Quel est le lien que peuvent avoir aujourd'hui un historien des sciences, un épistémologue, avec ces différents champs scientifiques qui deviennent de plus en plus pointus ?
Alors,
Michel Serres.
Précisément, mon livre répond à cette question. C'est-à-dire, il est vrai, et vous avez raison de le dire, que si on est historien des sciences, on va devenir aussi spécialiste que les savants. C'est-à-dire on va être historien de la microbiologie, ou on va être historien de la physique des particules, etc. Et donc on risque de se trouver aussi spécialisé, etc. Donc il est vrai que faire une histoire des sciences globales, déjà c'est un peu difficile parce qu'il faut prendre un recul et il faut connaître un peu de tout. Mais ça, en gros, c'est moins difficile que l'on croit dans la mesure où ça s'est toujours passé ainsi. C'est-à-dire, je crois qu'à l'époque d'Aristote, c'était difficile déjà de maîtriser la totalité du savoir, à l'époque de Leibniz également, à l'époque de Hegel encore plus, mais ça n'empêche pas que ces historiens-là, ou c'est plutôt ces philosophes-là, ont tenté le coup de la globalisation, bien entendu. Bon, ça c'est en effet l'idée, disons, un peu banale sur la question. Mais ce pourquoi j'ai fait mon livre, c'est pour dire que j'avais une autre conception de l'histoire des sciences. Que l'histoire des sciences, pour moi, n'était plus tellement le développement de telle ou telle discipline dans le temps, mais de dire au contraire que l'ensemble des sciences avait une histoire et que l'histoire rentrait dans l'ensemble des sciences. Mmh. Voilà. Alors, c'est pas de l'histoire des sciences, c'est de l'histoire de l'univers, c'est l'histoire des êtres vivants, c'est l'histoire de ce que vous voudrez, de nos conditions d'existence, mais les sciences ont partie prenante avec l'histoire. Et donc, en prenant du recul, tout d'un coup, on change complètement de paradigme. Il ne s'agit pas d'histoire des sciences complètement, il s'agit de l'affirmation ou de l'évidence que les sciences ont rentré dans l'histoire et que l'histoire est rentrée dans les sciences.
Voilà. Mmh. Et c'est assez, assez intéressant, c'est que pour prendre les choses dans le sens inverse, oui. puisqu'on parlait oui. de l'historien des sciences par rapport à l'évolution des différentes disciplines, j'ai lu ce papier que je vous soumets, Michel Serre, d'un professeur d'ingénierie biomédicale à l'université de Boston, qui s'appelle Mohamed Zaman, et qui a publié dans The Conversation un plaidoyer pour une meilleure intégration de l'histoire des sciences dans le cursus des étudiants en sciences. Il constate non seulement que dans des champs très spécialisés, hein, comme on le mentionnait à l'instant, les étudiants n'ont plus oui. de culture épistémologique, mmh. il écrit « Nous sommes debout sur les épaules des géants qui nous ont précédés et pourtant les étudiants savent très peu de choses à ce sujet. » Alors ma question est la suivante, Michel Serre, est-ce qu'il faut réimplémenter de l'histoire des sciences dans l'apprentissage des sciences techniques et des domaines de sciences extrêmement plus pointus ou plus
oui.
spécifiques.
Alors c'est une double lutte que j'ai menée toute ma vie. Évidemment, j'étais historien des sciences dans le département d'histoire, et les historiens se moquaient parfaitement de la discipline parce qu'ils ne connaissaient pas de sciences. Et d'autre part, ceux qui n'étaient pas scientifiques, c'est-à-dire les littéraires, se moquaient encore plus de l'histoire des sciences. Par conséquent, je me battais du côté des savants en me disant « Est-ce que ça vous intéresse aussi de savoir de l'histoire des sciences ?» Et c'était encore... Et par conséquent, l'histoire des sciences était très isolée, vous savez, très isolée. Alors, cette lutte dont parle votre collègue, là, ou notre collègue, c'est une lutte que j'ai menée tout le temps, où j'ai été toujours battu, où c'est toujours difficile, mais c'est une lutte qui est partielle seulement. En fait, la vraie lutte essentielle, c'est comment se fait-il que dans nos universités, nous divisions de façon majeure les scientifiques d'un côté et les littéraires de l'autre. Cette rupture est encore plus dramatique, parce que cela permet de cultiver d'un côté des savants qui n'ont pas de culture, et de l'autre côté des cultivés qui n'ont aucune science, vous voyez. Et ça devient dramatique aujourd'hui. Et ça devient dramatique aujourd'hui, pourquoi? Parce que tous les gens qui nous gouvernent aujourd'hui, ou qui sont même dans les médias, sont des gens formés aux sciences humaines, aux humanités, aux sciences humaines. Et comme ils n'ont aucune culture scientifique, ils ne voient pas les appels désespérés que les savants leur envoient. Vous voyez, le cas du réchauffement climatique ou le cas de l'écologie de la planète en est un cas majeur et vraiment gravissime. Or, cette lutte aussi, je l'ai menée il y a déjà 30 ans, quand j'écrivais non seulement le contrat naturel, mais le tiers instruit, pour dire qu'il fallait vraiment, alerte, il fallait former dans l'université des gens qui aient la double culture, pas seulement l'histoire des sciences, mais la double culture. Mais cette affaire-là n'a jamais rien produit. Les gens, et oui, c'est normal que ça produise rien, parce que les gens sont fiers d'être spécialistes et font carrière que s'ils sont spécialistes.
Est-ce que, pour pousser un cran plus loin, et toujours dans la foulée de ce que dit ce professeur Mohamed Zaman, est-ce que l'apprentissage aujourd'hui des sciences dans des filières très spécialisées, c'est apprendre l'histoire des sciences, c'est aussi réapprendre d'une certaine façon la culture de l'échec, c'est-à-dire dire que la recherche et les découvertes sont des processus continue oui. et pas une série de disruptions brutales.
Oui,
est-ce qu'il faut le redire, ça? Est-ce qu'on ne le dit plus assez, peut-être?
Non,
Michel
mais il y a
Serre.
Les deux à la fois. C'est-à-dire, je vous raconte une histoire. Un jour, quand j'étais normalien, j'ai dû être bombardé, professeur, dans une taupe, vous voyez, dans une prépa scientifique. Et alors, évidemment, les scientifiques se moquaient du prof de philo. Et ils n'avaient rien. Et je me suis mis à dater le programme de Polytechnique. Et à ce moment-là, ça les a stupéfaits. Je leur dis, ce que vous apprenez là sur les questions coniques, ça date du 6e siècle avant Jésus-Christ. Ce que vous apprenez là en calcul différentiel, ça date du 17e siècle. Ils étaient vexés comme des poux. Ils croyaient être tout à fait up-to-date, vous voyez, alors qu'ils étaient tout d'un coup complètement dans l'Antiquité ou l'âge classique, vous voyez. Et tout d'un coup, ça les a complètement réveillés. Et ils se sont aperçus, en effet, qu'en faisant des sciences, ils faisaient à la fois des choses qu'on pouvait dater, exactement comme on pouvait dater les traces, etc. Vous voyez.
C'est votre tropisme pour la datation.
Intéressant de dater le programme de maths des spécialistes de sciences. Ouais. Et ça les réveille, en effet. Ça les réveille. Ils s'aperçoivent que les sciences, c'est une culture et une évolution. Alors, pour répondre à votre question, cette évolution est parfois continue, mais parfois discontinue. Mais il y a les deux schémas, je crois. De temps en temps, c'est continu, pas souvent, mais enfin, ça peut l'être. Et d'autres moments, il y a des coupures complètement avec des changements de point de vue, bien sûr.
J'aurais une dernière question avant de passer à la Bibliothèque des sciences. Michel Serres, comment est-ce que vous expliquez, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, que quand cette époque qui est la nôtre, qui est une époque extrêmement scientifique, où la science nous entoure de plus en plus, où elle est de plus en plus présente dans notre environnement quotidien, on constate par ailleurs une forme d'air de la défiance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la parole scientifique, on en a parlé plusieurs fois autour de cette table, est plus démonétisée que jamais, et qu'il y a une défiance plus grande vis-à-vis de la parole et de la recherche scientifique. Comment est-ce que vous l'analysez, Michel
Serres ? Alors, la réponse est aussi dans mon livre, c'est-à-dire que je crois que lorsque j'étais jeune et que j'étais moi-même scientifique, puisque j'ai fait des mathématiques et de la physique, il était évident que les sciences étaient toutes bonnes et seules bonnes. N'est-ce pas ? C'est ce qu'on appelait le scientisme, si vous voulez, en gros, le résultat moyen de la philosophie des Lumières. Plus il y aura de science, plus nous serons heureux. Bon. Et tout d'un coup est arrivé Hiroshima. Hiroshima a été une crise terrible dans la conscience scientifique, de sorte que j'ai connu même des physiciens qui sont devenus biologistes pour éviter précisément le problème que posait la physique. Et puis, tout d'un coup, ça n'a pas cessé. C'est-à-dire que, tout d'un coup, la chimie avec ses vaisseaux a eu les mêmes problèmes. Ensuite, la biologie avec les problèmes ont eu exactement les mêmes problèmes. Donc, tout d'un coup, la science a eu une crise morale, si vous voulez, déontologique. Voilà. Et bien sûr, il a fallu réparer ça. Et je crois que les problèmes dont vous parlez datent de cette époque.
Et bien pour conclure cette émission, Michel Serres, comme chaque jeudi, nous allons flâner dans les allées de la Bibliothèque des sciences, puisque chaque semaine, un ou une scientifique nous lit un extrait de l'ouvrage de littérature scientifique qui a marqué sa carrière. Aujourd'hui, c'est l'océanologue Gilles Boeuf qui nous ouvre les portes de sa bibliothèque personnelle.
La Bibliothèque des sciences.
Donc le livre que j'ai retenu, moi, a été écrit par un anthropologue qui est professeur au Collège de France, qui s'appelle Philippe Descola. Il est publié chez Gallimard en 2005. Et je vais rebondir sur un écrit qu'il a fait cette année et qui reprend en fait ce livre « Par-delà nature et culture » dans un article qui s'appelle « Les défis conceptuels de l'anthropocène ». Philippe Descola a un regard sur finalement les raisons d'espérer. Est-ce qu'on va être capable de changer notre façon de faire vis-à-vis des agressions diverses que l'on fait subir à la planète ? Alors on me dit souvent, elle est menacée, la planète ? Pas vraiment, je dirais même qu'elle s'en fiche, la planète. Ce qui est important pour nous, c'est de conserver le bien-être de l'humanité sur cette planète. Et l'humain n'y pense pas suffisamment. Donc c'est ça qui m'a plu en biologiste, c'est comment effectivement on est capable de jeter un regard sur cette relation entre la nature et la culture, entre l'humain et cette nature qui nous entoure. Et il dit, c'est pourquoi il faut imaginer que puissent être représentés non pas des êtres en tant que tels, des humains, des États, des chimpanzés ou des multinationales, mais bien des écosystèmes. C'est-à-dire des rapports d'un certain type entre des êtres localisés dans des espaces plus ou moins vastes, des milieux de vie, donc quelle que soit leur nature. Des vallées, des massifs montagneux, des villes, des littoraux, des quartiers, des mers, une véritable écologie politique, une cosmopolitique de plein exercice, ne se contenterait pas de conférer des droits intrinsèques à la nature, sans lui donner les moyens, bien sûr, de l'exercer. Ainsi que l'a fait la Constitution de l'Équateur, par exemple, il y a quelques années. Il s'attacherait à ce que les écosystèmes entrepuisaient, et tout ce qui les compose devienne des sujets politiques dont les humains seraient des mandataires. Donc vraiment changer notre façon de faire. Hein. Dans ce dernier rôle, les humains ne seraient plus la source du droit légitimant l'appropriation de la nature à laquelle ils se livrent. Ils seraient les représentants très diversifiés d'une multitude de natures, dont ils seraient devenus juridiquement inséparables. Notons qu'une telle conception n'est étrange de prime abord qu'au regard des fondements individualistes de notre présent système juridique et politique. Car l'ethnologie et l'histoire nous offrent par ailleurs maints exemples de collectifs dans lesquels le statut des humains est dérivé, non pas des capacités universelles réputées universellement rattachées à leur personne, mais de leur appartenance à un collectif singulier, mêlant indissolublement des territoires, des plantes, des montagnes, des animaux, des sites, des divinités et une foule d'autres êtres, encore tous en constante interaction. Dans de tels systèmes, les humains ne possèdent pas la nature, ils sont possédés par elle. Pourquoi ce livre ? Tout simplement parce que c'est une vraie question pour les biologistes depuis longtemps de réfléchir à notre efficacité sur le monde politique, sur le monde industriel, sur le monde agricole qui nous entoure, sur le monde moderne, c'est-à-dire comment cette nature est-elle aujourd'hui observée, envisagée, pour qu'on change un peu notre regard dessus en se disant nous en faisons partie, nous sommes dedans, nous sommes nous aussi un morceau de nature, et donc chaque fois qu'on agresse cette nature et cette biodiversité, on s'auto-agresse soi-même. Et ça c'est important, et ce livre le précisait bien déjà dès 2005, hein, ça fait maintenant effectivement un certain temps.
Voilà, c'était la Bibliothèque des sciences de Gilles Boeuf. On aura bientôt l'occasion d'entendre la Bibliothèque des sciences de Michel Serre que nous enregistrerons pour plus tard. Merci beaucoup, merci Michel Serre, d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre Darwin, Bonaparte et le Samaritain, une philosophie de l'histoire aux éditions du Pommier. Et puis bientôt aussi Hergé, mon ami, toujours au Pommier. J'en profite pour vous rappeler, si vous ne le saviez pas, que le 24 octobre sur France Culture, une nouvelle fiction consacrée à Tintin, ce sera le Lotus Bleu. Prenez marque dans vos agendas. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lozen, Léo Quentin, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, à la réalisation Elisabeth Miro, à la technique Élise Leu et au droit d'auteur Victor Buton. Et demain, comme un vendredi sur deux, table ronde sur l'actualité des sciences et de la recherche avec nos consoeurs et confrères de la presse et du web scientifique. On parlera notamment de politique de la recherche, du bébé à trois parents et de l'eau sur le satellite Europe autour de Jupiter. Tout de suite, dernier LSD de la semaine, dernier épisode de la série documentaire de Perrine Carvran consacrée à la prise de parole. Et nous, on se retrouve demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.